Bonsoir à vous toutes et à vous tous et très bonne matinée jusqu'à 11h30. Vous êtes en compagnie de Marc Menant. Bonjour Marc.
Bonjour Jackie, optimiste, j'espère mon petit bonhomme, hein, que vous êtes fidèle à l'image qui est la vôtre. Tonique, mais pas que cela. Vous êtes confiant dans l'avenir. Disons que cette émission va vous requinquer si vous avez quelques soucis, si vous vous dites que ma foi, il n'est pas toujours bon de se lever le matin. Fi de tout cela. Adieu le malheur, bonjour bonheur. Il suffit de savoir bien penser. Tout est dans notre tête. Nous sommes les guides de notre propre existence. Et si nous avons décidé de vivre heureux, nous le pouvons. C'est du moins ce qu'affirment nos deux invités de ce matin. Christine Hardy, découvrez la pensée positive, éveillez vos potentiels mentaux, c'est aux éditions du Rocher. Et puis Catherine Balance, la pensée créatrice, aux éditions Jouvence. Mesdames, optimiste à tout craint, jamais le moindre malheur, c'est la première question qu'on a envie de vous poser.
Alors, non, tout de même pas.
Non, Christine Hardy.
Non, tout de même pas, parce qu'on est dans une société trop compliquée, on a un être trop compliqué soi-même, et donc c'est évident que ce qu'on peut faire, c'est par contre amener beaucoup plus de positif dans notre vie la moyenne, peut-être, et aussi essayer d'aller vers des événements que l'on a choisi soi-même. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que la pensée positive, en fait, ce que ça nous permet, c'est de pouvoir mieux se focaliser sur notre propre développement personnel, sur ce qu'on veut réaliser, et d'essayer de mettre tout en œuvre pour que toutes nos énergies, tous nos choix aillent dans ce sens.
Donc ça, rameuter c'est... les forces profondes que l'on a
exactement,
en nous.
Exactement.
Alors quand même, il y a une question qui vient tout de suite, elle est un peu vacharde, si je puis utiliser ce terme qui n'est pas spécialement élégant, en disant, mais alors si tout le monde rêve et a fini par acquérir la conviction qu'il sera président de la République, il va y avoir beaucoup de monde aux prochaines élections. Et il n'y aura qu'un vainqueur en plus. Alors, ça prouve bien quand même que la pensée, oui, elle peut déboucher sur beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas limité en soi quand même?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'on n'a pas tous envie d'être président de la République.
Oui, mais imaginons que. Poussons la logique à l'extrême.
Moi, j'essaie de ne pas pousser la logique à l'extrême. J'essaie tout simplement de penser à comment ma journée va se passer chaque jour et qu'elle se passe le mieux possible. Alors, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, même dans les épreuves, on peut toujours voir le côté positif d'une épreuve et en tout cas retirer la leçon d'une épreuve et faire en sorte qu'ensuite, on passe pas de la même façon cette épreuve-là où elle ne se représente plus dans notre vie. Moi, je préfère les petits objectifs pour arriver aux grands objectifs, que commencer par m'imaginer président de la République avec 60 millions de Français.
Oui, d'accord, mais quand vous dites les petits objectifs, si je me contente d'envisager une journée sereine, ou ma foi, de temps en temps, des petits pics d'allégresse me seront offerts, bah, j'aurais peut-être du mal à obtenir une véritable situation qui soit galvanisante en elle-même.
Je pense que ça commence comme ça. C'est-à-dire, si vous commencez par un petit objectif, qui pour moi est un grand objectif, d'être heureux toute une journée, du matin jusqu'au soir, qui peut-être pour vous est une chose que vous vivez, parce que vous avez l'air d'un garçon comme ça depuis votre toute petite enfance. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et je pense que si vous commencez par être simplement heureux tous les jours de ce que vous faites, même si votre patron vous engueule, vous vous dites, tiens, je vais lui envoyer une belle pensée d'amour, et hop, il va me faire un sourire, car ça se passe comme ça aussi, moi je peux le vérifier très régulièrement, et bien si tout le monde se mettait simplement à faire ces petites choses-là, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux, et je pense que le monde aurait moins besoin de se faire la gueule, de se faire la guerre, de se faire la gueule aussi, et je pense que c'est un début. Après, ça n'empêche pas qu'on ait des moyens objectifs ou des grands objectifs qui soient peut-être d'être président de la République et d'y arriver.
Alors Christine Hardy, ça veut dire quoi ? Quand vous écoutez Catherine Balance, est-ce que vous, le matin, vous vous sentez toujours en pleine confiance ? Vous n'avez jamais à lutter contre des pensées négatives ? Parce que c'est quand même ça, là,
le grand fait. Mais bien sûr que si. Pour moi, toutes ces techniques de pensée positive qui sont dérivées d'un travail sur soi, de la méditation, des choses comme ça, ce sont des techniques qui me permettent parfois de prendre sur moi pour surmonter certaines épreuves qui sont très difficiles. Je veux dire, il y a des choses qui nous tombent dessus à tout le monde. Donc, la seule différence, si vous voulez, c'est que, un petit peu à la différence de Catherine, je pense beaucoup plus à long terme. C'est-à-dire que je pense que en tant qu'être humain, si on veut vraiment réaliser nos objectifs les plus hauts qu'on puisse avoir dans notre vie, il faut démarrer dès qu'on est jeune, dès le départ, dès qu'on commence à les ressentir. Si on commence à se laisser aller, si vous voulez, dans toutes les opportunités qui s'offrent dans la société, eh bien, on n'arrivera jamais vraiment à réaliser cet objectif.
Alors, par exemple...
Oui, c'est la pensée positive.
Oui, alors, il y a les sportifs. Dans ce que vous venez de dire, il faut que ça vous vienne très jeune. Bon, il y a les choses qui, de façon innée, jaillissent dans le subconscient. Ce matin, il y a Idi Irvine qui vient de remporter le Grand Prix en Malaisie. Ce garçon-là, il y a quelques années, alors qu'il était un pilote inconnu, qu'il ne pouvait même pas garantir d'être un jour en Formule 1, il avait dit à ses camarades qui luttaient avec lui dans une formule inférieure, un jour, moi je serai champion du monde chez Ferrari. Et apparemment, bah, tout semble se dessiner pour qu'il puisse obtenir cette consécration-là, alors que sur le papier, il n'avait aucune chance pour se faire. Est-ce que cette conviction intime a fait que nombre d'éléments se sont enchaînés pour que cette position s'offre
oui.
à lui?
Voilà, ça c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que tout est lié en nous, entre les désirs, les choix qu'on va faire. On a des choix, des sélections, des décisions à chaque moment de la vie. Chaque petite chose d'aller là ou en vacances ou d'aller ailleurs, de travailler là, d'accepter ce travail, d'accepter cet appartement et non pas d'attendre 3 mois de plus. Tout ça, si vous voulez, ça fait des branchements qui font après des chaînes de causes et d'effets. Donc quand on n'a pas de but vraiment clair à l'esprit, on est pris par tout un tas de possibilités et puis on ne voit pas pourquoi on choisirait ça plutôt que l'autre. Cet appartement me paraît aussi bien que l'autre, ce boulot, je ne vais pas chercher 3 mois de plus. Donc on se met, si vous voulez, dans des cases sociales, dans des lignes d'évolution qui peuvent aller très très loin en dehors de ce que vraiment on aimerait faire.
Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas s'avachir.
Oui, tandis que si quelqu'un a compris ce qu'il voulait faire, et évidemment, plus on est jeune, mieux c'est. À ce moment-là, chaque petite décision dans la vie va être orientée dans le sens de ce qu'il veut accomplir plus tard.
Mais alors là,
et ça, tout ça, ça va amener les événements, petit à petit, vers la réalisation de son but.
Alors dans vos deux livres, on pourrait résumer ça sous le nom de pensée magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de simplement admettre qu'un objectif est réalisable sans tenir compte de tous les paramètres qui peuvent interdire de l'atteindre. C'est-à-dire que, bon, vous naissez dans un milieu extrêmement défavorisé, vous n'avez aucune possibilité de vous dire « je pourrais être un jour dans une situation de rayonnement ». Il faut oublier tout cela, il n'y a pas de logique, c'est « je le serai, je visualise simplement la réussite », c'est ça ?
Marc Menant, quand j'ai écrit La Pensée Créatrice, tous les gens autour de moi m'ont dit « n'écris pas sur ce sujet, il a été beaucoup trop exploité, publié, tu ne seras jamais publié ». Je ne suis jamais départie de ce chemin qui m'a pris un certain nombre d'années parce que j'étais persuadée, mais sans aucune prétention, j'étais sûre que ce livre, il devait faire du bien aux gens, donc il serait publié.
Donc il s'est vendu à 450 000 exemplaires.
Exactement.
non mais là, toutes les deux, vous sortez
Marc
des livres.
Maintenant, Paolo Coelho vend des millions d'exemplaires à son troisième livre. Je pense que les 10 années précédentes, il a écrit 2 autres livres qui sont sortis ensuite et il a connu le succès après 10 ans. Je pense que ça, le rapport au succès, c'est un des objectifs, bien sûr, de vie. Moi, c'est un de mes grands objectif, pas le succès, mais l'aisance qui me permettrait effectivement de vivre de mes livres et de ne faire que cela, écrire, ce qui est ma passion première. C'est un objectif de vie, mais je pense qu'il y a des tas d'objectifs. Moi, je sais que personnellement, je me suis beaucoup plus dirigée vers des objectifs de comportement, de relation aux autres, tout en ne jamais perdant de vue mon objectif premier qui est d'écrire et que j'ai depuis toute petite. Et cela dit, à propos de jeunesse, je voudrais quand même dire à nos auditeurs que Il n'y a pas d'âge pour commencer à comprendre comment fonctionne sa pensée. Il n'y a pas d'âge. Simplement, quand on commence à avoir cette conscience-là, eh bien, on peut tout mettre en œuvre par la pensée, par l'attitude positive, par la conviction. Et je crois que le sportif dont vous parliez tout à l'heure a depuis toujours une conviction extraordinaire, parce que c'est quand même un défi fabuleux que de se dire « je serai champion du monde ».
Et chez Ferrari, pas ailleurs, c'est chez Ferrari.
C'est beaucoup plus difficile à faire qu'être président de la République.
Christine Hardy.
Oui, moi je pense, si vous voulez, que on a l'impression que les événements sont complètement extérieurs. La science, de plus en plus, notamment la physique quantique, montre en fait qu'il y a une interaction entre la pensée et même des événements extérieurs, la matière. On découvre en parapsychologie que le mental est capable d'avoir une influence, par exemple, sur l'organisation des cellules de notre corps, des organes. On est capable d'avoir une influence sur des cultures de cellules, par exemple. C'est des recherches de laboratoire.
Alors ça, c'est intéressant. Restons 2 secondes là-dessus, parce que dans votre livre, vous parlez, par exemple, de l'influence de la pensée, en l'occurrence, sur le comportement des souris, c'est ça ?
C'était pas sur le comportement des souris, c'était une méthode expérimentale qui, on endormait les souris de façon tout à fait classique, et le but de l'expérimentation était qu'un guérisseur ou des gens qui avaient certains dons essaient de faire en sorte que les souris se réveillent plus vite de l'anesthésie, évidemment sans les toucher, sans les manipuler et à distance. Et ils ont même varié les distances. Et c'était quelque chose qui était fait vraiment en hôpital, enfin en laboratoire, de façon très très soignée. Et il y avait des souris expérimentales et des souris contrôle. Et l'expérimentation a été extrêmement positive. Mais il y a eu 150 expérimentations de ce type, de l'influence de la pensée sur le vivant.
Oui, mais alors ça veut dire quoi? C'est qu'en l'occurrence, si la pensée, puisque pour la souris, c'est la pensée extérieure qui l'influence, nous sommes tous menacés par les rayonnements des autres. Alors comment avoir sa propre pensée positive lorsque on peut avoir comme ça des éléments parasites qui viennent nous contrarier sans qu'on en ait conscience?
Eh bien, c'est justement là où il faut augmenter, comme vous dites, sa propre pensée positive. C'est-à-dire qu'on est de toute façon dans des réseaux d'influence, on n'arrête pas de s'influencer. On le voit bien dans les couples, on le voit bien dans les familles. Je veux dire, la façon dont les gens projettent des choses sur les autres, c'est en permanence, à tous les niveaux, les rôles sociaux, tout ça, c'est d'énormes projections qu'on fait sur les autres.
Mais alors justement, donc, comment échapper à toutes ces influences, à ces carcans?
Eh bien justement,
alors, tous les matins, vous levez, alors parce que dans votre livre, vous dites, il faut avoir des objectifs, et pourquoi pas, et toutes les deux, ça vous le signalez, il faut les écrire très précisément pour s'aider à s'en imprégner. Alors tous les matins, vous avez comme
non,
ça...
Non. Il y a deux grandes possibilités. La première, c'est très bien expliqué dans le livre de Catherine, c'est la possibilité de renverser les énergies négatives en positives. C'est-à-dire que envoyer du positif, envoyer de l'amour, etc., c'est vrai que ça a une influence énorme, parce que ça casse les projections de l'autre sur nous. Bon, la deuxième possibilité, c'est en effet soi-même de renforcer sa propre énergie. Tous les sages du monde entier, les chamans, etc., ont toujours dit qu'on atteignait, si vous voulez, des choses au niveau du mental, des états méditatifs, une compréhension, une exploration de son propre esprit. On obtenait ça en augmentant sa propre énergie mentale. C'est une des choses de base de toutes les techniques de méditation, de tous les yogas. Oui. Il faut d'abord travailler sur soi-même, ouais, augmenter son énergie.
Alors, simplement, pour travailler sur soi-même, et là, je vous pose la question à toutes les deux. Catherine, le matin, vous vous levez, au lieu de faire votre prière, votre gymnastique, moi, je fais la gymnastique, j'ai oublié la prière, mais bon, c'est une autre façon de faire. Vous avez un moment où vous vous concentrez sur ce qui va se passer, c'est ça?
Tous les matins, quand je me réveille, oui, ouais, j'ai quelques secondes.
Quelques secondes, ça va, c'est abordable. Ça coûte pas trop cher.
Pour moi, aujourd'hui, c'est quelques secondes, simplement, où je visualise pas ma journée, non, mais où j'essaie de simplement de prendre une énergie positive de l'univers, de l'espace. Et c'est quelques secondes, c'est 2-3 minutes de légère, mais même pas méditation, d'un petit...
Bon, soyons clairs, vous êtes dans votre lit, pénétrons en votre chambre avec toute dignité.
Quelques petits exercices.
D'abord un peu de gym. Oui.
C'est pas vraiment une gym, je fais quelques exercices de rotation de la tête, c'est quelque chose qui me ressemble, qui m'aide à me réveiller très doucement. Et pendant ces quelques secondes, je fais une petite prière à l'univers. Alors moi j'appelle ça ma petite prière à l'univers, mais c'est juste quelques mots. C'est mon truc à moi, mais je veux dire, tout le monde peut avoir son truc à soi.
Il y a les techniques. Jours au fond de soi. D'abord, vous savez qu'il va y avoir telle échéance qui va vous tomber sur la tête, les impôts à payer, malheureusement. Vous avez des dettes, il y a tellement d'éléments qui vont vous bouffer de l'intérieur que comment arriver à avoir cette énergie-là?
On n'est pas obligé d'être bouffé de l'intérieur. Moi, les impôts, même si parfois il y a des mois où il y a moins d'argent, ça, pour l'instant, ça ne me préoccupe pas. Il y a eu des périodes où ça me préoccupait, et maintenant j'ai vraiment confiance.
D'accord, donc mais vous en foutez si les huissiers sont devant la porte, vous avez raison.
Pas d'huissier devant la porte, je me suis organisée de toute manière pour que cette situation n'arrive pas. Je veux dire,
Christine Hardy, vous alors, le matin, c'est quoi?
Moi, le matin, oui, je n'existe pas.
Bon, alors voyons,
je n'existe que
l'après-midi.
Je commence à me réveiller vers l'après-midi. Oui, je travaille toute la nuit.
Oui. Bon, alors, quand vous vous levez, quel que soit l'horaire, hein?
Non, mais je n'existe pratiquement pas, même au réveil. Je veux dire, c'est pour moi, si vous voulez, l'esprit se développe au fur et à mesure de ma période de veille.
Mais alors, ça veut dire quoi?
Je deviens extrêmement.
Oui, mais donc, quand vous êtes dans cette somnolence, vous êtes d'autant plus menacé par les idées négatives.
Oui, c'est vrai. Ma période de faiblesse étant le matin, absolument.
Alors que se passe-t-il? Comment vous les boutez hors de votre crâne?
Ah, c'est très facile. Il n'y a pas de forcément le téléphone le matin, par exemple. C'est très simple. Non, je pense que essayons de revenir à quelque chose de plus centrer. Bon, c'est vrai que là, c'est intéressant. Enfin, Catherine a quelque chose d'un petit peu plus centré sur le quotidien, sur le travail quotidien. Moi, j'ai une méthode qui est centrée sur le long terme. Mmh. C'est-à-dire que
ça n'empêche pas le long terme.
Non, bien sûr, absolument pas. Non, je dis, il est évident, oui. Mais si vous voulez, pour moi, par exemple, une échéance qui va se passer dans le futur, un moment très très important, un examen, le bac, etc. C'est quelque chose qui se prépare pas le matin, surtout pas, parce que la pensée positive agit bien en avance. Et on a bien plus de force, évidemment, si on commence à agir bien avant la date fatidique.
Alors là,
pourquoi? Pourquoi? Une demi-seconde. Parce que on commence à mettre en place des bonnes énergies qui vont ramener tous les événements positifs vers cette échéance bien avant. Donc, on commence à se préparer, on ne fait pas les erreurs même dans la préparation. C'est ça qui est important.
Pour épouser votre propos, simplement, il ne suffit pas pour l'étudiant de se lever le matin en se...
Du bac, surtout pas.
Ouais, non, mais même 4 mois avant, en disant je vais avoir mon bac, mais sans jamais ouvrir un livre. En revanche, est-ce que le fait de s'imaginer en train de réussir et en prenant ses livres, cela va faciliter la concentration et l'acquisition des connaissances?
Oui, alors très bon exemple, on revient dessus un tout petit peu. Par exemple, un examen ou quelque chose comme ça. Moi j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie, si vous voulez. Je fais, par exemple, j'essaie de ressentir comment va se passer un événement. Je travaille aussi sur la divination. La divination me permet d'avoir des renseignements sur ce qui risque de se passer actuellement dans le futur. Et si je vois que ça marche pas bien, je cherche le problème et après je travaille en pensée positive pour réorienter les choses. Donc ce qui se passe, c'est que je vais m'apercevoir par exemple qu'un événement ne va pas du tout être pour moi. Par exemple, cet examen, bon, je ne sais plus au niveau des examens, mais cette épreuve ou cette échéance ne va pas bien se passer. Et à ce moment-là, je commence à avoir une réflexion intense sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va mal se passer. Et à ce moment-là, je m'aperçois par exemple que je ne suis pas prête. Je m'aperçois que je n'ai pas donné le temps qu'il fallait, que je n'ai pas prévu dans mon calendrier assez de temps pour me préparer, etc. Donc, c'est tous les petits événements, non seulement l'état d'esprit, non seulement le fait de se dire je vais me sentir bien, toutes les techniques de pensée positive dont on peut parler plus précisément, mais aussi le fait, si vous voulez, que en commençant à me préparer psychologiquement, je commence à mettre de mon côté tous les facteurs normaux, simples de la vie.
Je dirais que là, vous êtes comptable de votre existence, vous pratiquez de façon extrêmement rationnelle, mais ce qui est intéressant dans vos deux livres, vous dites que si vous gagnez cet état d'esprit-là, au-delà de la solution que vous pourriez trouver de façon analytique, c'est là que les rêves peuvent devenir version de solution. C'est cela, c'est-à-dire qu'à force d'attendre une solution, de se dire qu'on va la trouver alors qu'on avait un avenir qui ne semblait pas être très bon, parce qu'on change cet état d'esprit, dans le rêve, il y a une information qui va vous guider.
Il se passe des choses. Vous parlez du rêve quand on dort, ou du rêve de vie? Parce que moi, je pensais au rêve de vie, c'est-à-dire quand on a un objectif de vie, et quand on entretient vraiment un objectif positif et des pensées positives chaque jour, on se rend compte qu'on attire à nous, et c'est extraordinaire de voir la concordance à ce niveau-là des événements. Je pense que Christine aussi le dit parfaitement bien dans son livre. On attire à nous les bonnes personnes, celles qui vont nous aider à aller dans le sens du projet.
Alors ça, c'est bien. On va s'apercevoir aussi qui est-ce qui nous dégringole sur la tête. On n'a pas le temps de s'être préparé. Et à ce moment-là, eh bien, il est vrai que l'on peut connaître des moments extrêmement difficiles. Et pour parler de cela, j'ai demandé à Bernard Werber, romancier connu qui s'intéresse aux fourmis, ses romans étaient de grands succès, mais il y a un livre peut-être moins connu de lui et qui est un très beau livre qui s'appelle Le livre secret des fourmis, encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est aux éditions Albin Michel. Et Bernard Werber, dans ce livre, vous racontez des histoires ô combien étonnantes. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette anecdote, ça se passe sur un bateau, c'est ça?
C'est dans les années 50, c'est un des marins qui s'était introduit dans un conteneur de réfrigération, c'était sur un bateau anglais, qui transportait du madère en provenance de Portugal en direction de l'Écosse. Et donc ce marin était rentré dans un conteneur de réfrigération et on ne s'était pas aperçu qu'il était rentré dedans et on avait fermé la porte. Et donc il a fait tout le trajet dans ce conteneur de réfrigération, mais il y avait de la nourriture, donc il a pu se nourrir.
Et il ne pouvait pas sortir puisque le principe d'une chambre froide, c'est de ne pas avoir de poignée à l'intérieur.
Voilà. Et à ce moment-là, il a trouvé un petit morceau de métal et il s'est mis à graver son agonie, sa mort de froid, comment il y avait ses orteils qui gelaient, comment il ressentait le froid, comment il était malade et tout. Il est gravé tout ça sur le métal du mur.
Alors ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que au fil des jours, il avait une dégradation physique, c'est-à-dire que les morsures du froid étaient là à lui entailler la chair.
Voilà, en tout cas, lui, il le décrivait comme ça. On l'a finalement retrouvé mort quand, est arrivé à quai. Et ce qui était surprenant, c'est qu'en fait, le système de réfrigération n'était pas branché, si bien que la température n'a jamais baissé en dessous d'une température acceptable. Si bien que, donc, parce qu'il croyait qu'il était dans un caisson de réfrigération, il a imaginé qu'il mourrait de froid et il en est mort.
Et il y avait chaque jour des détails extrêmement précis sur ce que le froid peut engendrer comme maux dans la physiologie humaine.
Oui, parce qu'en fait, le cerveau humain contrôle parfaitement la santé de l'individu. Le cerveau peut décider pratiquement, je dirais, de tout l'état de toutes les cellules. Je me rappelle, je mets peut-être cette expérience en parallèle d'une autre expérience que j'ai vue. L'opération consistait à arracher une dent sous hypnose sans anesthésique. Et le dentiste m'avait expliqué qu'au début, donc il disait à la personne, lorsqu'on aura arraché la dent, il n'y aura pas de sang qui coulera. Il a arraché la dent, il n'y avait pas de sang qui coulait. Mais il s'est aperçu que la personne avait besoin d'un petit caillou, d'un petit bouchon pour fermer la plaie. Et donc il a changé sa programmation, il a dit à la personne, maintenant quand j'arracherai la dent, il y aura 3 gouttes de sang, ni une de plus ni une de moins, qui sortira et qui feront un caillou pour boucher. Et il a filmé ça et on voyait, une fois que la dent est arrachée, il y avait 3 gouttes qui se faisaient et qui formaient le caillou. C'est-à-dire que le cerveau humain peut même maîtriser la sortie du sang d'un petit vaisseau au niveau de la bouche.
C'est-à-dire que pour vous, ça ne vous surprend pas du tout lorsque l'on affirme « la pensée est créatrice ».
La pensée est créatrice, mais je vais apporter un petit bémol, je dirais, pas sur tout le monde. Il y a des gens qui sont plus doués ou plus sensibles aux effets de leur pensée sur leur corps. Il y a des gens qui sont toujours, je dirais, en contrôle. Il y en a d'autres qui peuvent être influencés par leur imagination.
Alors, pour vous qui êtes écrivain, qui avez été journaliste, est-ce que vous utilisez cette capacité invraisemblable du cerveau dans votre quotidien, pourquoi pas pour rédiger vos ouvrages?
Je me mets en effet dans un état spécial quand j'écris, mais à vrai dire, ce n'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'histoire prend, il y a un moment, je suis dans un état d'oubli de qui je suis, de ce qui se passe, et je suis entièrement dans l'histoire. Mais j'essaie de me programmer pour que cet instant soit le plus long possible. Je dirais sur 4 heures de travail, j'arrive à 3-4 minutes, ce qui correspond à une sorte d'extase d'écriture. Et j'essaie chaque fois de me préparer à prolonger ces 3-4 minutes.
Vous êtes un batailleur du doute, quoi.
Einstein disait tout est relatif. Et moi, je préciserais, si tout est relatif, même la relativité est relative. Donc, il doit exister une petite part d'absolu. Je crois qu'on peut admettre les deux. Les gens qui disent « moi je ne vis que dans le doute » ont tort, et ceux qui disent « je ne vis que dans la croyance » ont tort aussi. Il doit exister un peu de doute dans la certitude et un peu de certitude dans le doute, sinon les deux systèmes ne sont pas opérants.
Alors je dirais, je crois que vous avez fort bien formulé les choses, mais je crois seulement. Merci beaucoup Bernard Werber.
Merci.
Voilà donc cette conversation avec Bernard Werber, toutes les deux, Catherine Balance et Christine Hardy. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Pour Christine, Découvrez la pensée positive, ça vient juste de sortir aux éditions du Rocher. La pensée créatrice aux éditions Jouvence, de vous Catherine Balance. Alors, il y a plusieurs points pour rebondir. Un petit détour d'abord au 01 42 32 15 15. Vous êtes manifesté spontanément, ça ne m'étonne pas de vous et c'est parfait. Alors je retiens que Lissou, qui nous appelle des Hauts-de-Seine, nous dit « Je suis d'accord avec les deux intervenantes, je suis formatrice, mes élèves ressortent positifs de mes cours car je leur parle de façon positive, avec des mots de tous les jours, mais que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour trouver le bonheur. J'ai créé une association pour les femmes de 50 ans et plus. On ne veut pas montrer notre image dans les magazines, il n'y a que du jeunisme. » Bon, mais là, c'est une lutte, je signale la chute, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'effectivement, on puisse se dynamiser. Et puis, il y a André qui dit « J'ai une pratique qui consiste à prévoir les choses à l'avance, par divination, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Christine, cela permet d'être décontracté quand les événements arrivent, surtout les désagréables. Et moi, j'ai été licencié 5 fois, cela sans stress, et à chaque fois, je m'en suis sorti. » Ça, c'est plutôt très très positif, mais quand même, il y a plusieurs éléments. C'est, tout à l'heure, Bernard Werber parlait, évoquait ce cas du dentiste, des 3 gouttes de sang et la notion d'hypnose. On a beaucoup traité l'hypnose la semaine dernière. Est-ce que l'état que vous proposez de concentration le matin, cette autosuggestion, c'est proche de l'hypnose?
Oui, c'est très proche, enfin, dans la mesure où c'est les mêmes mécanismes profonds. C'est-à-dire que c'est la suggestion qui agit dans l'hypnose en grande partie. Et la suggestion, si vous voulez, qu'elle vienne de quelqu'un ou après qu'on se la refasse à soi-même, que ce soit une autosuggestion, c'est des mots, des pensées extrêmement claires et des choses qui sont formulées avec de façon symbolique, de façon imagée, et qui vont profondément s'installer et s'installer, si vous voulez, dans notre inconscient. Il est évident qu'on a une énorme part d'inconscient dans tout ce qui se passe dans la vie. Il est extrêmement présent. Et en fait, cet inconscient, on peut lui parler, on peut envoyer des informations qui vont changer la façon dont il conçoit les choses et dont il est, si vous voulez, ouvert par rapport à certains événements. Et c'est une technique que les psychologues peuvent développer, c'est-à-dire qu'ils parlent directement à l'inconscient des malades. Et quand on parle à son inconscient, on peut provoquer ou changer des choses qui arrivent même au niveau du corps physique. Alors je prends un tout petit exemple, moi je fais une pratique, je l'ai fait plusieurs fois. Et je pense que ce qu'il faut dans la pensée positive, c'est se tester sur des petites choses très simples pour s'apercevoir des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, ou qu'on peut faire arriver. Et moi, je me suis testée très très souvent, par exemple, lorsque je me brûle. Bon, on a quand même l'expérience, on sait très bien qu'une certaine brûlure, d'une certaine force, avec une certaine chaleur, etc., va provoquer une ampoule. Et à ce moment-là, dès que la brûlure se passe, je pose un de mes doigts sur la brûlure, j'appuie très fortement et je visualise dans ma tête ce petit bout de peau, et je m'imagine qu'il est parfaitement normal, qu'il ne bouge pas, je l'imagine comme s'il était normal. Et je vous assure que plusieurs fois la cloque ne s'est pas passée, et notamment une fois j'ai mis ma main carrément sur la plaque rouge du électrique, j'aurais dû être complètement brûlée, je ne l'ai pas été. J'ai fait une méditation, une visualisation d'à peu près 5 minutes sur la main, et la douleur est partie, et je suis redescendue, aucune cloque ne s'est formée.
Alors ça c'est beau, mais il y a là déjà votre pratique. On s'aperçoit qu'on est sous influence. Dans votre livre, à un moment donné, et ça montre bien là encore que la pensée génère des phénomènes. J'appelle ça le cas pollen dans votre livre, c'est la page 24, hein, j'ai noté ça comme ça.
Il y a un meilleur cas pour
Oui, mais pollen. Alors, en deux secondes, le pollen quand même.
Ben, le pollen, c'était de dire, quand on sait qu'on peut avoir une allergie au pollen, parce qu'au printemps il y a du pollen, ou quand on a quelqu'un auprès de nous qui a un rhume, et on se dit, tiens, il y a un rhume dans l'air, je peux l'attraper, à partir du moment où on a la conscience qu'on peut attraper cette chose parce que beaucoup de gens ont une allergie au pollen, il suffit que l'on éternue une fois ou deux au printemps pour qu'on fasse une association pollen-éternuement, et pour qu'on développe une allergie au pollen l'année suivante, qu'on refasse ça et qu'on développe finalement en une ou deux années ou très vite une allergie au pollen.
Tout à l'heure avec le docteur Lemoine, on parlera de l'effet placebo et comment effectivement on peut guérir par la pensée en évitant ces phénomènes de somatisation, parce que là c'est de la somatisation pure d'une certaine façon.
La somatisation, c'est-à-dire c'est l'anxiété en fait, c'est l'anxiété d'attraper quelque chose, c'est la peur. Je pense que la peur est ce qui perturbe le plus la pensée créatrice.
Donc voilà, comment se débarrasser de la peur. L'autre exemple
L'autre exemple, c'est un ami qui au Québec s'est fait déchiqueter le poignet par une de ses fenêtres, vous savez.
Ah oui, belle histoire, oui.
Et il est allé à l'hôpital, il a été opéré je crois pendant 8-9 heures pour qu'ils essaient de reconstituer son poignet, et on lui a dit, vous ne retrouverez que 5 ou 10% peut-être de la mobilité de votre poignet. Or le soir même, dans sa chambre, il y avait son infirmière qui lui a affiché au-dessus de son lit une main avec les muscles, une main comme on voit en science nat, là, enfin bon, une main.
D'accord, un écorché. Un écorché, ça s'appelle.
Merci.
Non, mais je vous en prie. Il faut savoir penser positif, c'est tout, ça vient.
Non, mais j'explore pas tous les domaines. D'accord. Je consacre à certains. Oui. Et elle lui a dit, cette main, c'est ta main. Et regarde-la tous les soirs, tous les matins, et dis-toi que c'est cette main, ta main, et que cette main, elle est mobile. Et au bout de 3 semaines, c'est un ami très très proche, hein, je sais qu'il m'a pas raconté d'histoire, et j'ai vu sa main fonctionner ensuite. Au bout de 3 semaines, il avait recouvré 80% de sa mobilité. Alors, des cas comme ça, il y en a, mais plein.
Alors ça se voit beaucoup chez les sportifs. On voit des gens condamnés par la médecine après avoir un grave accident, que ce soit chez les cyclistes, les boxeurs, les coureurs automobiles, les coureurs motocyclistes. Des gens, on leur dit non. quoi qu'il arrive, vous ne vous en sortirez plus. Vous retrouverez peut-être un usage relatif de votre corps, mais vous ne serez plus jamais sportif de haute compétition. Et comme si la passion leur donnait un feu invraisemblable, en 3-4 mois, pof, ils rejaillissent sur la scène et obtiennent des résultats.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit au niveau de la somatisation. Bon, la somatisation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment intéressant comme truc. Ça veut dire qu'on a un certain état d'esprit, par exemple une peur ou un désir, et que ça agit sur le corps. C'est absolument extraordinaire.
C'est tellement inconscient. Par exemple, lorsque on rencontre des psys aujourd'hui, ils vous disent, il y a embusqué chez nous, au plus profond, une sorte d'héritage, je dirais, de la pensée, qui nous vient d'autres générations, et qui fait que il y a des accidents qui vont se reproduire, et quand on les confrontera avec ce qui s'est passé dans les générations précédentes, on s'apercevra que c'est totalement identique.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs...
Mais ça, on ne sait pas, alors comment lutter contre ça?
On ne le sait pas, mais d'un autre côté, si vous voulez, ça peut ressurgir. Il y a en effet des espèces de complexes qui sont psychologiques et qui viennent soit du social, soit des familles. Excusez-moi. Au cours des générations. Et en effet, on voit ce qu'on appelle des anniversaires, des événements se reproduire d'une génération à l'autre. Mais ces choses-là sont très, très bizarres, mais elles se passent tout naturellement avec des événements très simples de la vie. Par exemple, le mariage, le divorce, l'héritage. Ce sont des moments, si vous voulez, sociaux qui sont entourés de toute une constellation de sens au niveau du social. Et cette constellation nous tombe dessus. Vous avez un couple, par exemple, qui vit en concubinage pendant des années, ils ont une relation merveilleuse, un jour ils décident de se marier, et tout d'un coup rien ne va plus dans leur couple. Et en fait c'est parce qu'ils sont happés, si vous voulez, par toute cette constellation de sens collective, qui leur tombe dessus avec des rôles sociaux, avec des façons de se comporter, des valeurs, etc. Et ça on peut le voir arriver chez nous. Donc on le voit, si vous voulez, avec, par exemple moi à un moment donné, ma mère parle toute seule. À un moment donné, tout d'un coup, je m'aperçois que je commence à parler seule. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Immédiatement, j'arrête tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette espèce de possibilité en moi qui vient peut-être de ma famille, de ma mère, etc. Et immédiatement, je travaille dessus et je la sors de ma vie. Hein, je m'arrange, si vous voulez, pour que ça n'arrive pas.
Eh bien, très bien. Ça nous arrive de temps en temps. Ils sont les bienvenus, ce sont les annonceurs. On se sépare donc quelques secondes et on se retrouve juste après.